Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Jusqu'à 19h, le débat des grandes voix en ce samedi 8 mai. Avec nous ce soir, Laetitia Krupa, journaliste politique, qui vient de publier chez Buchet-Chastel La tentation du clown, l'hypothèse d'un candidat hors système qui viendrait chambouler la campagne présidentielle. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Votre réponse à Brice Hortefeux est attendue dans un instant. Et Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique.
Bonsoir Wendy,
Philippe.
Bonsoir à tous.
Eh bien, allons-y tout de suite sur cette réponse qui va inaugurer ce débat sur la tentation du clown à un an de la présidentielle. Il disait en substance que méfions-nous des instituts de sondage. Qui a pu donner finalement le vrai match un an avant l'élection présidentielle et surtout bien le résultat final, Frédéric Dabi?
Oui, alors Brice Hortefeux a tout à fait raison d'alerter sur la prudence à un an du vote. L'offre électorale n'est pas connue. Il y a beaucoup d'événements qui peuvent se produire. On en parlera avec Laetitia Krupa. Mais factuellement, ce qu'il a dit est faux, puisque en 87, toutes les enquêtes faites d'opinion donnaient un François Mitterrand largement réélu face à Jacques Chirac, même s'il y a eu un moment où Raymond Barre était possiblement le challenger du président socialiste. Et Brice Hortefeux, je pense, s'en souvient très bien, car il est un petit peu concerné par cette élection. En 2006, l'ensemble des enquêtes donnaient à Nicolas Sarkozy en tête au premier tour et gagnant au second tour face à Ségolène Royal.
En tout cas, ce n'est pas une réflexion qui vous déplaît, parce qu'elle est en l'occurrence au cœur de votre livre, Laetitia Krupa, La tentation du clown, extrêmement documentée, très accessible aussi, et très fort. Vous vous dites finalement, il y a une constante, Laetitia, c'est qu'à quasiment chaque élection présidentielle, on a un candidat préélu qui se dessine et au final, on a une surprise.
Exactement, enfin les deux dernières, on les a vues, je ne vais pas vous refaire le film de Strauss-Kahn. Voilà, rocambolesque et de Fillon, rocambolesque aussi dans un autre registre. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a été complètement surpris. Le dernier qui a été élu, Emmanuel Macron, l'a été sous des atours de clown. C'est ce que je démontre dans cette enquête. C'est une enquête. Hein. Ce n'est pas mon avis d'éditorialiste. J'ai pris cette fois-ci la casquette du reporter et je suis allée voir 50 experts en sociologie, en politologue, des chercheurs, des journalistes, des hommes politiques, des hommes de l'ombre, des hommes de médias. Et j'ai tenté de dresser un état des lieux de la France en 2021, à un an du premier tour. Et je peux vous dire, Wendy, que le résultat de l'enquête, effectivement, laisse, en tout cas, disons, soulève certaines interrogations, notamment celle d'une surprise totale. Et ce que je peux vous dire, après un an d'enquête, c'est que l'imprévisibilité, encore une fois, elle est vraiment... si ce n'est totale, en tout cas massive pour le premier tour. Je ne sais absolument pas honnêtement, qui sera sur la ligne de départ? Alors, on en a déjà des candidats déclarés, certes. Mais finalement, le résultat de ce livre, c'est qu'un candidat qui est apolitique, parce que c'est ce que j'appelle clown, c'est un candidat qui ne vient pas du CRH.
C'est l'outsider, c'est le poil à gratter aussi.
C'est l'outsider, c'est le candidat surprise, c'est celui qui sort du chapeau. Mais c'est surtout celui qui n'est pas politique, puisque nous sommes dans un climat de défiance absolue envers les politiques, de la crise de la démocratie représentative. Alors si on ne veut plus qu'un politique nous représente, qui peut nous représenter? Pour qui peut-on voter? Les Français qui vraiment se sentent mal représentés, ne se sentent plus représentés, peuvent avoir envie de mettre un bulletin clown dans l'urne. Et quand je dis clown, encore une fois, ce n'est pas du tout péjoratif.
Oui, et ça a du sens. Ça a du sens 40 ans après la campagne de Coluche.
Oui, et ce n'est pas uniquement un saltimbanque. Ça peut être quelqu'un qui vient de la télévision, comme en Ukraine.
Oui. Oui, parce que vous parlez de la France, mais vous faites un tour européen, international, de Bolsonaro à Donald Trump. C'est ça aussi qui a du sens. Et vous vous dites finalement, pourquoi partout ailleurs et pas chez nous, en France? On va y revenir. Petite parenthèse avec vous, Philippe Moreau-Chevrolet, parce que vous rejoignez complètement l'hypothèse enquêtée de Laetitia Krupa dans ce livre. Dans votre BD publié aux Arènes, le président, sous-entendu Hanouna, qui passe du monde de la télévision à ce monde politique et cette tentation-là, vous l'avez aussi exploré, vous.
Oui, puis le sous-titre de la BD, c'était « Méfiez-vous des clowns ». Il se trouve qu'avec Laetitia, sans le savoir, on a enquêté sur le même sujet pendant un an et on a travaillé, moi en BD et elle, avec un livre beaucoup plus sérieux, évidemment. Et on arrivait à la même conclusion, qui est que l'élection était prenable par à peu près n'importe qui. Et pourquoi pas quelqu'un qui fait du divertissement. Pourquoi ? Parce qu'on s'est habitué à consommer la politique par le divertissement, par les réseaux sociaux et aussi par des émissions un peu comiques. Regardez Jean-Michel Blanquer, par exemple. Mmh. On est dans une crise sanitaire historique. Il traite très très peu de l'actualité sérieuse. Il ne répond pas au collectif de scientifiques sur la protection de l'école. Mais il fait des petites vidéos où il danse, où il fait du shifumi avec des enfants. Il multiplie ce type de format. Qu'est-ce
oui,
que ça
dit ? C'est pas un clown, il a une connaissance quand même du
c'est
monde.
C'est pas un clown, mais quand des politiques sérieux comme Jean-Michel Blanquer, qui n'est pas très drôle, qui en tout cas ne fait pas profession d'être un comique, quand il commence à utiliser ce type de format, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les politiques eux-mêmes utilisent Hanouna pour leur communication, utilisent des formats de divertissement pour communiquer avec les gens. On finit par s'habituer à ça. Et je voudrais signaler un très bon papier de Luc Bronner dans Le Monde, qui est intitulé « À un an de la présidentielle, la seule certitude ». C'est qu'il n'y a plus de certitude. Il est allé à Metz-sur-Seine, en Seine-et-Marne, et il a constaté que tous les lieux habituels de conversation politique avaient disparu. Il n'y a plus de peau de l'amitié, il n'y a plus de cérémonie des anciens combattants, il n'y a plus de fêtes, il y a 40 mariages en moins par an au minimum. Enfin, il n'y a plus d'endroit pour se réunir. Le seul endroit où on peut encore parler politique, c'est les réseaux sociaux.
Oui.
Et c'est des outils de divertissement.
Et c'est vrai que j'ai rencontré notamment Tristan Mendès France, Gérald Bronner, des sociologues qui travaillent sur ces sujets-là. Et il y a une caractéristique qui ressort à chaque fois, à chaque entretien, c'est que nous sommes enfermés dans les bulles algorithmiques sur les réseaux sociaux. Et donc, ça rejoint aussi la théorie de Jérôme Fourquet, de l'IFOP, que j'ai rencontré également, qui parle de cet archipel de la société, de la fragmentation. Et il peut y avoir autant de clowns que de chapelles. C'est une des hypothèses du livre aussi, Wendy. Parce qu'on parle d'un espace pour un clown, mais peut-être en existe-t-il plusieurs. Et si on cumule le taux en voix que peuvent avoir ces candidats ou ce candidat, on peut avoir une énorme surprise au second tour. Parce que si le clown fait entre 10 et 15%, voire plus, il peut être le faiseur de roi, il peut peser de façon décisive sur le second tour. Et ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Coluche n'a pas eu ses signatures. Coluche, c'est parti d'une farce.
Ah, vous le dites, ça, il avait eu quelques signatures simplement, mais il a fait peur. Il a fait
Coluche,
peur aux
autorités. C'était une blague. Oui. Aujourd'hui, on est 40 ans plus tard, tout a changé. Coluche, c'était avant.
La France me fait peur, elle me semble prête pour le populo-fascisme. Cette phrase, vous la tirez de Robert Badinter, qui s'exprimait dans le magazine Challenge il y a quelques mois. Alors, on a parlé de l'hypothèse d'autres clowns aussi. Frédéric Dabi, nous sommes 40 ans après le 10 mai 1981. Quand on parle de Coluche, évidemment, c'est ce clown sans doute le plus populaire qui a fait trembler quand même le sommet de l'État, même si... en effet, il y avait la farce derrière et il a mis fin à cette farce très rapidement.
C'est une farce, il l'a mis tard. Il l'a mis fin plutôt tardivement, début avril, je crois, 81. Il a fini par appeler à voter.
1er avril.
Voilà, 1er avril, en plus, avec sa fausse grève de la faim. Enfin, sa grève de la faim qu'il a arrêtée le 1er avril. c'est vrai que quand j'entends Laetitia, j'ai commencé à lire son livre passionnant. Il y a aussi une sorte d'écosystème qui pourrait faire surgir ce candidat. On peut l'appeler le clown, on peut l'appeler le candidat hors système, le candidat surprise. Il y a d'abord l'état d'esprit des Français sur leur pays. Qu'est-ce que c'est, Wendy, qu'une élection présidentielle ? C'est un moment où la France s'arrête, la mondialisation n'existe plus et on célèbre notre pays. La France n'est pas le problème, la France est la solution, avait dit François Hollande en 2012. Et là, jamais le sentiment de déclin, le sentiment de la France qui tombe n'a été si fort. Et ça, ça touche directement, en termes d'impact, ceux sur lesquels nous projetons la France en grand, c'est-à-dire le personnel politique. Deuxièmement, il y a, quand on interroge les Français dans des études qualitatives, je ne sais pas si vous l'avez eu, Laetitia, un récit assez saisissant des quatre derniers quinquennats, de tous les quinquennats, parce qu'il n'y en a eu que quatre, où c'est à chaque fois la déception, l'échec, pour ne pas dire la trahison.
Ouais, c'est de mal
Jacques
en pis.
Chirac, Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux n'en a pas parlé, François Hollande, et même Emmanuel Macron, quand bien même, c'est vrai qu'en termes de popularité, il a un socle, il faut le dire, qui est solide. Et puis, il y a on en parle suffisamment tous ensemble depuis le mois de septembre dernier, cette crise sanitaire aux conséquences économiques qui, plus que jamais, c'est très intéressant ce que Philippe a dit sur il n'y a plus de lieux, il n'y a plus les bistrots, il n'y a plus ces lieux. Ils vont finir par rouvrir, et j'espère que pour de bon, mais il manque ces lieux les lieux de confrontation, les lieux où se passe notre dispute nationale apaisée. Ces lieux n'existent plus. Et tout ça, concourt avec en plus les conditions de la victoire d'Emmanuel Macron, le fameux « pourquoi pas moi ?» un ministre de l'économie, conseiller de François Hollande, encore inconnu en août 2014. Sondage IFOP fiducial pour Paris Match, 74% des Français ne le connaissaient pas, qui finit par être élu. Tout ça concourt à l'émergence de l'hypothèse que Laetitia présente dans son livre.
C'est effectivement une des hypothèses de départ. Emmanuel Macron, rappelez-vous, personne n'y croyait vraiment parce qu'on on se raccroche en fait à nos repères historiques, ce qui est tout à fait normal, à ce qui s'est passé par le passé, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'ancrage territorial, qu'il était inconnu du grand public, qu'il n'avait pas d'histoire, parce qu'il était très jeune, pas d'histoire, pas de passé, pas de militantisme connu.
Et on s'est dit, droit d'aller l'écraser aussi.
Voilà, et on s'est dit, c'est pas possible, c'est impossible, et c'est arrivé. Donc aujourd'hui, on est, et vous voyez comme ça va vite, la révolution numérique, comme on est enfermé et comme cette crise nous enferme d'autant plus dans ce monde un peu parallèle que j'essaye comme ça d'ausculter, j'essaye en tout cas d'en tirer les plus grandes questions pour juste vraiment mettre tout sur la table un an avant. Parce que en fait, ce que je ne souhaitais pas, c'est que on soit le lendemain de l'élection et qu'on souhaite refaire le film, ce sera trop tard.
On l'avait pas vu venir. D'ailleurs, Gabriel Attal, Philippe Manrocher, voilà, que vous connaissez et que vous avez sondé, Laetitia Krupa, vous répond lorsque vous lui soumettez cette hypothèse du clown qu'il ne faudra surtout pas le mépriser. Donc, c'est une hypothèse que les décideurs, les communicants ont déjà en tête, Philippe Manrocher.
Oui, c'est une hypothèse, d'autant plus qu'en fait, il n'y a pas de certitude sur le premier tour de l'élection présidentielle. Tout le monde se projette sur le second tour en disant ce sera nécessairement Macron-Le Pen ou ce ne sera jamais Macron-Le Pen. La réalité, c'est qu'il faut quand même passer le premier tour. Le premier tour, il est faisable si on pense que l'élection se jouera face au Rassemblement national, quoi qu'il arrive au deuxième tour, parce qu'il est trop tard pour faire baisser Marine Le Pen, qui n'a pas vraiment besoin de faire campagne d'ailleurs, on peut imaginer que n'importe qui à peu près puisse arriver à faire 20-25%. On a pris Cyril Hanouna dans la BD Le Président parce qu'il a 20 ans d'ancienneté à la télé. Il a fait tous les plateaux de télé imaginables possibles à 250€ par émission, comme à 2,5 millions, comme à 250 millions maintenant. Voilà, il a fait toutes les configurations depuis 20 ans et il arrive à fédérer un large public et il s'intéresse à la politique. En fait, le jour où quelqu'un décidera avec un petit peu de structure et d'entre-gens de faire un strike et de prendre la politique comme Trump l'a fait aux États-Unis, ce sera possible parce qu'en réalité, regardez, il n'y a plus d'appareil politique. Il n'y en a même pas. Il n'y a même pas d'appareil politique du côté de la majorité présidentielle.
Il
n'y
aura peut-être plus de primaire d'ailleurs. Hein, d'où ne naîtront pas justement issus de ces appareils.
Il faut avoir 10 millions d'euros. Il faut lever 10 millions d'euros.
Exactement.
Macron a levé 10 millions d'euros avec ses contacts.
Faisable.
C'était assez simple. C'est faisable. Faisable.
Laetitia.
Cyril Hanouna, c'est intéressant. J'étais sur son plateau hier soir et je lui ai évidemment posé la question. Il n'ira pas, mais quand vous parlez d'appareil, effectivement, je pense que l'appareil politique n'est plus nécessaire aujourd'hui. Mais un appareil que pourrait proposer un Cyril Hanouna serait très efficace, il me semble. C'est-à-dire qu'il a tout en main pour pouvoir donner aux candidats les atouts nécessaires pour se présenter, la popularité, la notoriété, les réseaux sociaux, les réseaux aussi avec le politique, parce qu'il est instrumentalisé par le pouvoir de toute façon très claire, c'est ce que j'explique dans le livre. Donc, en fait, il ne faut pas sous-estimer cette dimension de la politique
maintenant,
que beaucoup sous-estiment beaucoup.
Est-ce
encore.
Qu'on peut donner des noms, parce que beaucoup s'interrogent sur les réseaux sociaux, des noms qui pourraient être le clown, justement? Alors, l'hypothèse Jean-Marie Bigard a été balayée, celle de Cyril Hanouna l'est également manifestement. Le général de Villiers, Éric Zemmour.
Oui, Éric Zemmour, le général de Villiers, mais ce n'est pas moi qui le dis, Wendy, comme je l'explique dans le livre, c'est le pouvoir.
Ils ont été sondés, Frédéric Zabir.
Ah non, mais ils ont été sondés parce que c'est un conseiller occulte de l'Élysée qui, d'article en article, quand vous lisez la presse, alors est-ce que c'est toujours le même? Est-ce qu'ils sont plusieurs? En tout cas, ce sont eux qui donnent des noms. Oui. Élise Lucet, Didier Raoult, Éric Zemmour. Cyril Hanouna, pourquoi pas un Philippe Juvin, même si on sait qu'il est un peu politique. Pourquoi pas, vous voyez, ils s'amusent, je ne sais pas si c'est un jeu, en tout cas ils le font,
à sortir
comme ça et à remettre toujours un peu de
c'est intéressant d'interroger le directeur général de l'IFOP sur ce sujet, Frédéric Dabi, parce qu'il y a deux candidats que vous avez sondés. Éric Zemmour, vous l'avez fait ou pas?
Oui, tout à fait, on a fait du potentiel électoral.
Ce n'est
pas vraiment du vote, ça avait été fait également pour Coluche en 80 avec Le Point. C'est pour ça qu'il y avait ce 16%. Ce n'est pas 16% d'attention de vote dans une offre politique d'Arlette Laguiller à Marie-France Garraud. C'était dans l'absolu. Ce que je trouve très, très intéressant dans les noms qui viennent d'être donnés, ils sont tous assez différents, mais ils ont tous un point commun. C'est une forte exposition médiatique.
Et voilà.
Ce sont des bons clients des médias. J'avais travaillé en 2002 pour la campagne de Noël Mamère à l'Institut CSA. Et c'était au contraire, à cette époque, vu comme un point faible. Les gens des Verts, qui lui avaient d'ailleurs préféré lors d'une primaire, Alain Lipietz, avait dit « Ah ben bah non, il ne faut pas de journaliste, quelqu'un qui est trop connu, il faut quelqu'un de terrain, un militant. » On voit que cette représentation qui se tenait en 2002 est complètement balayée quand on regarde les différentes hypothèses testées, même si, je le répète et je l'assume, l'IFOP, il y a trois semaines, a beau avoir réalisé 10 scénarios de premier tour, 10 scénarios dans une élection présidentielle, nous avions systématiquement Le Pen-Macron, Macron-Le Pen aux deux premières places, mais nous écrivons noir sur blanc que ce n'est pas une prédiction, c'est un rapport de force à l'heure où le sondage est fait.
Absolument. Ne sous-estimons pas, pardon, cela dit, ces petits candidats qui, par parenthèse, Philippe Manchevrelet, grignoterait des voix plutôt à qui, là, en l'occurrence, Éric Zemmour, général de Villiers, plutôt à l'extrême droite ?
C'est difficile à dire, en fait, parce que c'est des candidats qui sont aussi poussés par le dégagisme. Ce qui a fait le moteur d'Emmanuel Macron, c'est une dose raisonnable ou saupoudrée de populisme qui a permis de capter l'élan dégagiste. En gros, il a capté l'électorat un petit peu rebelle, ou un courant, disons, de ce qui se passait dans l'élection. Là, on ne sait pas qui va capter ça. Ce ne sera pas lui, parce que par définition, c'est le sortant. Mais qui va capter le dégagisme ? Est-ce que c'est un Xavier Bertrand en étant justement un assureur un peu méprisé par les macronistes qui peut créer une surprise en disant « bah oui, on va voter pour lui, juste pour vous montrer qu'on peut voter pour lui ». Est-ce que ça va être un général de Villiers sur cette idée qu'il faut rétablir l'ordre et qu'après tout,
face
voilà.
Face au délitement souligné par les tribunes.
Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les électeurs font des stratégies
variées
en fonction de ce qu'a dit Frédéric Dabi. C'est-à-dire que les électeurs lisent Frédéric Dabi et se disent « bon, alors si Frédéric Dabi me dit qu'on aura nécessairement ça, comment je peux faire en sorte qu'il n'y ait pas ça ?» Bah, je vais voter pour lui. Les électeurs sont intelligents.
Vous prêtez beaucoup de pouvoir, mon cher.
Non, les électeurs sont très intelligents. Ils aiment bien faire leur propre stratégie. Et il y a un côté stratège chez les électeurs. L'erreur, en général, des présidents sortants, quels qu'ils soient, droite ou gauche ou centriste, c'est qu'ils négligent l'intelligence des électeurs. Donc, ils font des calculs de niveau en se disant « ça va passer ». Non. L'électeur, il est poussé par le moment. C'est le pays qui fait l'élection, dit Stéphane Rosès.
Oui.
Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est les gens qui décident.
Mais il y aura le buzz derrière tout ça. On parlait des outils numériques, des réseaux sociaux.
Non, évidemment.
Ce buzz va être forcément alimenté par ce petit ou ces petits candidats qui vont émerger.
Oui, et pour cette enquête, je suis allée voir du côté, évidemment, de l'Italie, qui est le laboratoire. Et on voit comme une machine à data peut servir à gagner une élection, aussi grande soit-elle. Si on a l'ingénieur et la machine, je peux vous dire, Wendy, qu'on peut gagner. Voilà, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à côté de chez nous. Enfin, je veux dire, l'Italie, c'est notre voisin. Donc, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas en France.
La Slovénie, un comédien qui se fait connaître du grand public, il imitait à la télé les présidents, les premiers ministres, et il est devenu le plus jeune premier ministre slovène. Oui. Ça n'a pas duré longtemps.
Non, ça n'a pas duré longtemps, mais il a accédé à ce
Ukraine,
poste.
Le président ukrainien est un ancien comédien qui jouait le président à la télé avec un fort axe anticorruption, mais c'était de la fiction, sauf que c'est devenu une réalité.
Et il a joué sur son personnage pendant toute la campagne, il a joué dans ce mélange des genres, entre fiction et réalité, et aujourd'hui, j'ai rencontré notamment le communicant français qui a aidé Zelensky à gagner la présidence de l'Ukraine, et je peux vous dire que quand on l'écoute, ça fait réfléchir, parce qu'il dit que finalement, miser sur la fiction, c'est peut-être justement le bon pari pour réussir à accéder au trône, à accéder à l'Élysée. Donc si vous voulez, on n'est plus du tout dans une dystopie. Aujourd'hui, c'est possible, nous en sommes à ce moment-là de notre histoire. Ça ne veut pas dire qu'on va basculer nécessairement dans ce côté-là, mais tout est possible. Voilà, c'est juste un livre pour dire attention, tout est possible. Et choisissez de façon éclairée. Après tout, pourquoi pas prendre le bulletin clown ?
Oui.
Pourquoi pas ? Il n'y a aucun jugement dans cette enquête.
Vous ne voulez pas nous rendre Pierre Dac en 1965 qui énerve la candidature de Gaulle. J'avais oublié qu'il s'était officiellement déclaré candidat
de Gaulle, en fait,
de la République.
Ce qui est intéressant avec Pierre Dac et avec Coluche, c'est exactement le même phénomène. C'est que finalement, le pouvoir a pris peur. Pourquoi ? Davantage pour l'impact que ces candidats avaient sur l'opinion publique que sur leur potentialité à gagner. Vous voyez ?
Ben oui.
En fait, ça les dérangeait parce que finalement, ils étaient très très populaires et les idées qu'ils portaient avec de l'humour, mais vraiment qui était saillante, violente, déplaisaient au grand chef. Et donc Pierre Dac, on lui a demandé gentiment de se ranger comme Coluche.
Avec le slogan « Les temps sont durs, vive le mou », il était le candidat du mou. Son programme, en quelques mots, vous en citez quelques mesures. Êtes-vous pour la peine de mort ? Oui, mais avec sursis. Voilà la réponse.
Que c'est
mais ça, c'est formidable.
Ouais, c'est
1965, ça stimulait un peu l'esprit critique, on va dire.
C'était dur en même temps. c'est... Oui, puis ça fait peur, effectivement. Il y avait une très jolie phrase de Michel Bouquet dans un film politique. C'était « La politique est une affaire de requins et de requins entre eux ». C'est-à-dire que le petit poisson clown qui essaie de se faufiler dans la mare des requins se fait bouffer gentiment. Là, la différence aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, le petit poisson clown, il peut tout à fait prétendre gagner, l'emporter et mettre sur le côté les gros requins. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, typiquement.
C'est
et
vrai.
Donc, effectivement, on n'a pas tiré la leçon d'Emmanuel Macron. Lui-même n'en a pas tiré la leçon, finalement. C'est là que la force qu'il a eue sur le moment, c'était le pays qui lui a donné pour évacuer une classe politique dont il ne voulait plus.
Est-ce que vous diriez que toutes les manœuvres, les magouilles politiques, par exemple en région PACA aujourd'hui, ne font que favoriser justement l'éclosion d'un clown, d'un candidat hors système, Frédéric Dabi?
Déjà, ça favorise du désintérêt, et du désintérêt se manifeste à travers l'abstention. Dans notre baromètre fiduciel pour Paris Match, cette semaine, seulement 24% des Français ont évoqué dans leur conversation les élections régionales. En gros, Wendy, c'est 20 points de moins qu'une élection intermédiaire traditionnelle.
Ah, oui.
Ça annonce quand même le 20 juin une abstention catastrophique. Et oui, c'est vrai que ces affaires qui sont vues comme peut-être pas de la tambouille politicienne, il y avait également des idées, il y avait également des motivations, empêcher que le Rassemblement national gagne cette grande région et qui crée un effet de souffle très fort pour la présidentielle. Mais quand on fait ça, on ne parle pas aux électeurs. Et ce qui est vrai, vous en parlez dans votre livre, quelqu'un qui rapporte que ce que dit un électeur, c'est « vous ne nous parlez plus ». On parle et vous ne nous entendez plus. C'est là qui se trouve résumé la
coupure
entre représentants et puis représentés.
C'est François Liquet-Marty qui fait des enquêtes et qui va voir les gens, qui va vraiment chez les gens, qui discute avec eux. Et c'était une femme qui disait « je crie et personne ne m'entend ».
C'est ça.
Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu... on peut sortir de cette crise avec cette idée-là. Vous voyez comment vont sortir les Français de cette crise? Personne ne sait. Est-ce que vous savez, dans un an, Wendy, si on sera complètement sorti de cette crise sanitaire, est-ce qu'on n'en sera pas à la sixième vague? Est-ce que les vaccins seront... Je ne veux pas non plus faire peur, mais est-ce que les vaccins seront suffisants? Dans quel état d'esprit sera la France? Et à partir de là, tout est possible.
En tout cas, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. La tentation du clown, voilà l'ouvrage de Laetitia Krupa, extrêmement documenté et passionnant. Ce débat vous l'a prouvé. Comment un candidat hors système va bouleverser l'élection présidentielle. Ça vient de sortir chez Buchet-Chastel. Philippe Moreau-Chevrolet, il y a cette BD que vous avez sortie, vous, aux arènes. Le président, l'hypothèse Cyril Hanouna.
Si vous achetez La tentation du clown et le président, vous avez droit à un bisou.
des grandes voix. Et on attend le vôtre de livre, Frédéric Dabi.
Patience.
Merci beaucoup à tous les trois.